Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Rebonjour donc à tous. 2 heures d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs entre 12h30 et 14h30. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine et félicitations pour cette tranche d'information entre 12h30 et 13h qui est en forte augmentation. Bravo.
Bonjour Pascal, merci à vous aussi puisque c'est partagé. Bonjour à tous et un grand merci à tous les auditeurs qui effectivement nous suivent nombreux et un peu plus nombreux chaque jour. À la une, cette journée de grève à l'école, le ministre annonce 31% de grévistes chez les enseignants, les syndicats au moins deux fois plus. Dans ce journal également, garde à vue prolongée pour l'homme entendu dans l'enquête sur la tuerie de Chevaline. Et puis c'est une première, un ancien colonel de l'armée syrienne condamné pour crime contre l'humanité.
Juste après ce journal, on échangera, on décryptera, on débattra comme chaque jour depuis le mois de septembre. Alors que les enseignants sont en grève, que le ras-le-bol grandit aussi chez les parents, on a voulu savoir comment allaient nos enfants, comment vivent-ils cette rentrée. On sera dans un instant avec une psychologue et à 12h50, donc, le gros coup de cœur des boulangers,
coup de gueule
plus exactement des boulangers, alors que Leclerc annonce une baguette à 29 centimes.
Et c'est justement notre question du jour sur RTL.fr. Allez-vous l'acheter, cette baguette à 29 centimes? Vous dites non à 72%. La météo du jour, c'est avec vous, Céline Dacosta. Bonjour Céline.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
Est-ce qu'on va enfin avoir un peu plus de soleil au nord? On nous le promet depuis des jours.
Voilà, je vais encore employer le conditionnel, puisque la grisaille devrait quand même se dissiper dans le courant de l'après-midi sur la moitié nord. Alors, sur la Bretagne, le Cotentin, ça c'est quasiment certain, en plaine d'Alsace également. Effectivement, il reste quand même une poche de grisaille qui persiste entre la région parisienne et les Hauts-de-France. Partout ailleurs, soleil, un petit peu de vent sur les Caps Corses. Quant aux températures, toujours bien froides. 2 à 6 degrés, c'est la moyenne pour la moitié nord. Un petit peu plus en Bretagne, 7 à 9, 7 à 11 pour la moitié sud. Et puis toujours les chanceux près de la Méditerranée, un peu plus doux avec 12 à 15 degrés.
Merci Céline, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et pour commencer, direction Montarnaud, près de Montpellier. Dans cette commune, un peu plus de la moitié des enseignants sont en grève aujourd'hui. Mais les élèves ont bien eu cours ce matin. Ce sont en effet les élus qui ont pris le relais, Patrick Tégéraud.
Il y a là l'élu en charge des travaux qui a pris une journée de congé. Et même le chef de la police municipale et bien sûr le maire, Jean-Pierre Pugins.
L'idée était de ne pas empêcher les enseignants de faire grève, que le soutien. Hein. Mais on s'est mis à la place des parents qui, aujourd'hui, sont dans un état de stress important.
L'adjoint chargé de l'école, Christine Brock, s'occupe des CE1.
Vous savez pourquoi les enseignants font grève aujourd'hui?
Je sais, parce que la maîtresse, elle n'est pas contente qu'on ne fait que porter des masques.
Oui. Et pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas à vous faire un enseignement correct. Et vous pensez que c'est bien, c'est pas bien?
Pas très bien, parce que après on apprend moins de choses.
Et oui. Ça permet aux enfants de mettre des visages sur des noms. Et ça permet aussi de savoir ce qu'est un élu de la commune.
Oui, les élus vont en profiter pour faire un peu d'éducation civique et évoquer, par exemple, les chemins piétons vers l'école ou les pistes cyclables, en vue de préparer un conseil municipal des enfants. Car ils sont nombreux à Montarnaud. Sur 4100 habitants, plus de 1000 en moins de 16 ans.
Oui, plus de 1000 enfants sur 4000 dans cette commune donc de Montarnaud dans l'Hérault, reportage signé Patrick Tégéraud. Ce mouvement donc est très suivi, hein, si l'on en croit les syndicats. 62% de grévistes dans le secondaire, d'après le SNES-FSU, 75% dans le primaire. Le ministère de l'Éducation nationale, lui, donne le chiffre de 31% de grévistes, tout niveau confondu, près de 40% dans le primaire. La différence, vous allez me dire, Pascal, est énorme, mais quel que soit le chiffre retenu, hein, cette mobilisation, elle est nette. Le ministère d'ailleurs le reconnaît, des enseignants qui ont manifesté ce matin dans plusieurs villes de France, à Nancy notamment, où l'on vous retrouve, Samuel Goldschmidt.
Oui, Nancy, où le cortège, comme sans doute ailleurs, avait une cible.
On est là, même si Blanquer ne veut pas, nous on est là.
Le ministre qui a fait sortir de leur gond des enseignants qui souvent n'avaient jamais battu le pavé.
C'est la première fois que je manifeste, parce que là j'en ai vraiment ras-le-bol. C'est, je manifeste pas contre un virus, je manifeste contre un ministre qui nous méprise.
Ah, ma dernière manif, c'est quand j'étais lycéenne et puis étudiante, mais c'est tout quoi. Et là il y en a ras-le-bol, les directeurs sont épuisés, j'étais moi-même directrice toute ma carrière et j'ai laissé tomber la direction il y a 2 ans parce que tout le monde est épuisé.
Tout le monde est allé de sa petite affiche pour rappeler donc l'épuisement, le manque de masques, le manque de moyens. Il y a même un mot qui a été créé pour la circonstance, pour expliquer la situation des enseignants en classe.
complètement démerdantiel.
Nous avons quitté le distanciel et nous sommes en démerdantiel.
C'est ça en permanence, on est prévenu la veille pour le lendemain. On a des protocoles qui se succèdent et qui changent. On en est au 50e. C'est du délire.
Et les propos du ministre disant qu'on ne manifeste pas contre un virus ont effectivement achevé de souder les manifestants.
Même si Blanquer ne veut pas, nous on est là. Allez !
Samuel Goldschmidt en direct de Nancy pour RTL. Merci à vous.
C'est vrai qu'il y a eu 48 protocoles différents depuis le printemps 2020. Dans le même temps, les sénateurs, eux, ont adopté cette nuit le projet de loi instaurant le pass vaccinal.
Un texte quelque peu modifié, l'âge d'application notamment à 18 ans au lieu de 16 initialement. Ils doivent désormais se retrouver en commission mixte paritaire avec les députés pour se mettre d'accord sur une version commune du texte. La réunion est prévue cet après-midi. À Chambéry, garde à vue prolongée pour l'homme interrogé depuis hier dans l'enquête sur la tuerie de Chevaline. Bonjour Frédéric Perruche.
Bonjour.
Vous êtes devant la gendarmerie. Cette garde à vue, elle fait suite à une reconstitution qui a eu lieu en septembre dernier.
Exactement, une mise en examen, une mise en situation extrêmement minutieuse à la Combe-Dire au-dessus de Chevaline en présence de tous les témoins. Le cycliste britannique William Brett Martin, premier à accéder à la scène de crime, un randonneur français, les gardes forestiers et bien sûr le motard actuellement en garde à vue. Devant les enquêteurs, les juges et la procureure d'Annecy, tous ont refait leur parcours ce jour-là en vélo, moto, en voiture ou à pied. Un ballet soigneusement orchestré et chronométré par les gendarmes de la section de recherche. Un acte d'instruction très lourd qui a peut-être conforté la conviction des enquêteurs qui ont des doutes sur la chronologie précise des faits, sachant que le cycliste anglais et le randonneur français ont été clairement et rapidement mis hors de cause, grâce notamment à la recherche négative de poudre sur leurs mains, habits et cheveux pour vérifier s'ils avaient pu tirer avec une arme à feu. Reste donc un seul témoin identifié, ce motard chef d'entreprise présent sur les lieux, retrouvé et entendu 4 ans seulement après le drame. Une audition simple, mais le régime de la garde à vue aujourd'hui permet des investigations plus poussées, perquisitions, analyse des téléphones portables, ordinateurs. Les gendarmes ont peut-être de nouveaux éléments ou alors ils veulent fermer une porte, une énième piste pour de bon.
Frédéric Perruche en direct de Chambéry pour RTL. Gérald Darmanin est élu ce matin en Seine-Saint-Denis après une série d'actes de vandalisme contre des églises. La dernière en date, celle de Romainville où du matériel a été volé, Nathan Bocard.
Oui, ici à Romainville, les voleurs ont brisé une fenêtre pour s'introduire dans l'église. Ils ont notamment dégradé le tronc qui abrite les dons des paroissiens et volé plusieurs vases sacrés ainsi que du matériel de sonorisation. Un choc pour Serge Nzouzi, curé de la paroisse de Romainville.
J'avoue que lundi, quand je suis venu, j'étais en colère. Et j'étais en colère, en même temps, j'étais sans voix, atterré de voir l'église dans cet état-là. Ce que moi j'attends de la part de l'État, déjà qu'on retrouve les auteurs de ces actes, qu'ils puissent en répondre par rapport à la loi, qu'on puisse aussi essayer de sécuriser autant que possible les lieux des cultes.
Et ce matin, Gérald Darmanin a répondu à cet appel. Sur place, le ministre de l'Intérieur a rappelé le devoir de l'État de protéger les lieux de culte.
Je veux assurer que la préfecture de police, les services judiciaires et notamment sous l'autorité du parquet sont tout à fait mobilisés pour retrouver les responsables de ces vols, tout à fait inexcusables. Alors on augmente les moyens qui permettent d'équiper notamment en vidéoprotection les lieux de culte. Notre travail, c'est de rassurer tous les croyants qui veulent aller, évidemment, dans les lieux de culte et dont la liberté de la République leur permet de le faire.
Ici à Romainville, tout comme à l'église de Bondy, dégradée aussi cette semaine, les autorités se refusent à parler d'actes de haine ou de conflits religieux, mais simplement, pour l'instant, de cambriolage.
À Romainville, le reportage pour RTL de Nathan Bocard.
Et c'est un sujet qui fera réagir, évidemment, dans les auditeurs. On la parole tout à l'heure. Les catholiques sont-ils en danger, parfois, lorsqu'ils vont à l'église? En Allemagne, cette décision de justice qui fera date.
Un ancien colonel de l'armée syrienne condamné pour crime contre l'humanité. Bonjour Léo Braour-Potier.
Guten Tag, Amandine, bonjour tout le monde.
Vous êtes à Berlin pour RTL, c'est simple, cette décision, c'est une première mondiale.
Oui, tout à fait. Jamais auparavant, une juridiction dans le monde n'avait condamné un représentant aussi haut placé de la machine de Bachar al-Assad, une machine destinée à broyer ses opposants durant le printemps arabe. Perpétuité prononcée pour Anwar Aslan, reconnu coupable d'actes de torture sur plus de 4000 personnes, du meurtre de plusieurs dizaines d'autres, et ce résumé n'est que parcellaire. En condamnant cet ancien colonel des services secrets syriens, le tribunal supérieur de Koblenz génère une vague d'espoir immense pour les proches des disparus dans les geôles syriennes. Wafa Mustafa est sans nouvelles de son père depuis l'été 2013.
Ce qui se passe dans les murs du tribunal est très important. C'est une grande étape pour demander des comptes et la justice pour la Syrie.
La condamnation de Anwar Aslan ne sera vraisemblablement pas la seule puisque d'autres cours de justice en Allemagne se penchent sur des affaires similaires dans les prochaines semaines.
Léo Brauer-Potier, correspondant de RTL en Allemagne. Ici en France, Christian Jacob, le patron des Républicains, saisit la CNIL. RTL vous le révélait ce matin. Il accuse Guillaume Pelletier d'être parti chez Éric Zemmour avec le fichier des adhérents LR, Marie Mollet.
Oui, Guillaume Pelletier, député, ex numéro 2 de LR, qui, vous le savez, a claqué la porte dimanche dernier pour Éric Zemmour. Eh bien, l'état-major de LR en est persuadé. Il n'est pas parti les mains vides. Il aurait emporté dans ses bagages le précieux fichier d'adhérents LR, des dizaines de milliers de noms, de contacts, une mine d'or. C'est « prends le fichier et tire-toi », commente un cadre. Alors, pourquoi le croit-il ? Eh bien, parce que Guillaume Pelletier a écrit, a envoyé un mail à des militants LR pour les appeler à le rejoindre, lui et Éric Zemmour, à tous ceux qui veulent que la droite reste la droite, nous allons gagner, écrit-il. Alors autant vous dire que le message a fait hurler le patron des Républicains qui a saisi la CNIL pour utilisation frauduleuse. Information RTL d'Aurélie Herbemont, la CNIL qui peut enquêter et décider de sanctions financières, voire de transmettre au parquet si elle estime que les faits relèvent du pénal. Guillaume Pelletier, devenu en tout cas premier porte-flingue d'Éric Zemmour, chargé de dézinguer Valérie Pécresse sur les plateaux télé pour siphonner son électorat et relancer la campagne d'Éric Zemmour.
Marie Mollet du service politique de RTL, et on rappelle qu'Éric Zemmour est ce soir l'invité de RTL Soir. Rendez-vous dès 18h avec Julien Cellier. La suite du feuilleton Djokovic, on suit ça depuis plusieurs jours maintenant, à 4 jours du coup d'envoi de l'Open d'Australie. Sa participation se précise un peu plus. Bonjour Jean-Michel Rascol.
Bonjour.
Le numéro 1 mondial est bien au tableau.
Oui, le tirage au sort s'est déroulé ce matin. Novak Djokovic, tête de série numéro 1, affrontera au premier tour son compatriote Miomir Kecmanovic. Gaël Monfils pourrait être son adversaire en huitième de finale. Le programme est publié, mais l'acteur principal sera-t-il toujours à Melbourne au moment de la première séance, lundi ? Le gouvernement australien, le ministre de l'immigration, qui ont le pouvoir d'expulser le Serbe, n'ont pas rendu leur décision et entendent étudier trois nouveaux éléments à charge. La violation des conditions d'isolement en Serbie, après le test positif du 16 décembre, l'erreur qui figure sur le formulaire d'entrée en Australie et la possible manipulation des tests passés par Djokovic, comme l'a révélé l'enquête de journalistes allemands. Les avocats du joueur ont fait parvenir aux autorités de nouveaux éléments de défense. En attendant, Djokovic, qui espère toujours écrire l'histoire sur le ciment bleu austral, avait programmé un entraînement en public ce matin. Il s'est ravisé, posant un lapin au photographe. L'air est doux, l'ambiance toujours électrique.
Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL. J'ajoute que l'équipe de France de hand débute ce soir son Euro. Match à 20h30 à Budapest contre un adversaire de taille, hein, puisque nos champions olympiques affrontent la Croatie.
Premier débat dans une seconde. Comment les enfants vivent-ils cette rentrée? Et plus largement, comment vivent-ils cette pandémie? Quasiment depuis 2 ans, ils sont masqués à l'école. On sera avec une psychologue dans un instant.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Est-ce que tu t'es déjà fait tester?
Oui. À la pharmacie et avec maman en autotest, les deux. Elle était un petit peu inquiète à la pharmacie, mais ça s'est bien passé. Et puis avec maman, elle préfère, donc ça va. À la maison, on y arrive bien, avec l'autotest.
Tu préfères quand c'est maman qui fait les tests?
Oui, parce que j'ai un peu peur à la pharmacie. Je préfère à la maison.
Mila a 4 ans et vous l'avez entendu, pour elle, les tests, c'est mieux à la maison. Alors moi, mon fils, ce matin, me disait le contraire, il préfère aller à la pharmacie. Bref, alors que les enseignants sont en grève aujourd'hui et que le protocole sanitaire à l'école nous donne bien du fil à retordre, nous avons voulu savoir comment allaient nos enfants. Vivent-ils vraiment mieux cette crise que nous, adultes, comme on l'entend souvent, s'adaptent-ils mieux? C'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour Aurélie Calais.
Bonjour.
Vous êtes psychologue pour enfants, des petits, vous envoyez défiler toute la journée dans votre cabinet. D'abord, est-ce que vous trouvez que les choses ont changé depuis la rentrée de janvier? Est-ce qu'ils sont plus stressés avec ces nouveaux protocoles qui se sont multipliés?
Ben, je pense que c'est la multiplication des protocoles et surtout les changements. Avant Noël, vous avez plus le masque en extérieur, on le remet, on l'enlève. Selon les cousins qui ne vivent pas dans le même endroit en France, ce n'est pas les mêmes règles. Ben, là, je trouve que tous ces changements, ça devient un petit peu compliqué pour eux à suivre. Là.
Et ils ne viennent pas forcément vous voir pour ça, mais ils vous en parlent toujours ou pas, à chaque fois?
Alors, ils en parlent en disant, là, j'ai beaucoup quand même, il y en a marre, c'est pas rigolo. Même là, j'ai une maman qui est venue avec un bébé et je voyais ce bébé, je lui parlais avec un masque. J'étais là, même ces pauvres bébés qui voient que des adultes masqués toute la journée. Je trouve que c'est pas rigolo. Et ce qui est intéressant, là, j'ai eu un petit en consultation hier où, dans le cadre de, pour discuter, avoir des informations, j'ai sorti des petits personnages type Playmobil et il a vu une petite brosse à dents. Il dit, ah non, on va pas faire les tests PCR au Playmobil. Or, c'était pas du tout un consenti. Donc on sent quand même qu'il y a vite du lien sur ça, même quand on ne parle pas du tout de ça. Quoi, quand même.
Bon, on entend des choses très différentes et parfois très dramatiques. Que ce soit ennuyeux pour les enfants, on s'en doute. Simplement, certains disent les conséquences seront terribles, traumatisantes. On est en train de faire des enfants qui auront peur de tout, qui auront peur d'eux-mêmes, qui auront peur de sortir dans la rue. Est-ce que ça, on peut évaluer les conséquences et quel est votre sentiment sur ce point ?
Non, on peut pas vraiment l'évaluer. Après, moi, je suis toujours de nature optimiste et je trouve que les enfants, depuis le début de la pandémie, nous montrent qu'ils sont capables de faire preuve d'une énorme résilience et que donc ils rebondissent et que on espère tous que, voilà, bientôt, ils vont retrouver à peu près une vie.
Donc, il y aura pas de conséquences pour vous traumatisantes comme je l'entends parfois.
De traumatisme.
Je l'entends, effectivement. Je vais citer par exemple Marie-Estelle Dupont, qui est une psychologue clinicienne, qui, avec une association Les Mamans des Louves, met en garde contre la séquence que nous vivons aujourd'hui.
Oui, après, moi, dans ceux que je vois aujourd'hui, je trouve que tant qu'on arrive à leur maintenir une vie sociale, qui voient quand même un peu leurs copains, qui continuent leurs activités extrascolaires, qui continuent d'aller à l'école. Voilà, je trouve que ce qui était pour moi, ce qui aurait été plus compliqué, c'est si on avait été confinés extrêmement longtemps. Moi, ceux que je vois aujourd'hui me paraissent pas, ils sont dans une énorme lassitude, ils ont envie que ça change, ils sont un peu plus stressés, mais moi, ceux que je vois, je les trouve pas traumatisés quand même.
Aurélie, ce qui est frappant, c'est que les enfants, eux aussi, en parlent entre eux. Écoutez, par exemple, Lucie, elle a 8 ans, elle est au micro RTL d'Aurélia Valarié.
On en parle un peu, oui. Avec mes amis, on dit ce qu'on pense, on dit qu'on espère qu'on ne l'aura pas, qu'ils n'ont pas de chance de l'avoir. Bah, j'ai peur que tout le monde n'aille pas bien, mes parents, ma famille, les autres gens, mes copines, j'ai pas très envie.
Alors Lucie, elle a 8 ans, je parlais de mon fils tout à l'heure, mais en fait ce matin j'ai eu une petite discussion avec lui, il a 6 ans, et il me dit, moi tu sais maman, on en parle tout le temps en récréation, et il y a des enfants qui ont des gens qui sont morts dans leur famille du Covid. Ça introduit, j'allais dire, enfin, on a l'impression en tout cas, des sujets entre eux qui ne sont pas forcément des sujets dont ils devraient parler à 6 ou 8 ans, non ?
Oui, ça leur met des préoccupations qu'ils n'auraient pas forcément de manière en tout cas aussi régulière, ça c'est sûr. Et puis surtout, il y a ce stress, comme on a beaucoup dit, que les enfants étaient asymptomatiques, qu'il fallait qu'ils fassent très attention pour pas le donner, pas transmettre le virus à papy ou à mamie. Donc ça veut dire que bah, si tu lui transmets comme elle est à risque, en fait, elle pourrait mourir. Ça quand même, entre les lignes, ils le lisent assez bien. Et puis surtout, il y a pas mal d'enfants pendant les vacances de Noël qui ont contaminé des gens de la famille où il n'y a pas eu forcément de conséquences dramatiques, mais du coup qui se sentent une responsabilité et une culpabilité alors que ce n'est pas de leur faute.
Enfin, donc ça, c'est qu'est-ce qu'on va important. Faire nous en tant que parents ? Parce qu'on est quand même obligé de les emmener faire ces tests ou de faire l'autotest à la maison, de tout le temps vérifier qu'il y ait bien le masque. Enfin, quelle attitude on doit avoir ?
Bah déjà, moi, je trouve que le fait que maintenant les autotests soient autorisés, soient plus développés, c'est quand même une énorme avancée. D'ailleurs, dans les petits reportages que vous avez fait avant, on voit bien Mila, je crois, elle s'appelait. Elle dit, moi, je préfère quand même le faire à la maison. C'est vrai qu'avant les vacances, moi, je vois mon mari, au retour des vacances, l'école a dit, il nous faut un PCR pour arriver à l'école. Donc, on apprend ça à 8h du mat, ce qui est hyper pratique quand on doit aller travailler après. Et il a passé 2 heures à trouver une pharmacie à Limbo. Donc là, il y a le stress de l'adulte qui se dit, il faut que je trouve un truc, je vais être en retard à mon travail. Et s'il est positif, il faut qu'on rentre. Enfin, donc, à un moment donné, même si nous, en tant qu'adultes, on essaye de rester à peu près zen par rapport à tout ça, forcément qu'on a une transmission de stress par rapport à nos contraintes de vie d'adulte. Maintenant, les autotests, je trouve que pour beaucoup, quand même, ils préfèrent le faire à la maison parce que déjà, il y a l'avantage qu'on peut le faire le soir avant le bain, après le bain. Ils peuvent prendre, on peut en faire un en même temps avec un coton-tige, ils peuvent le faire à son doudou, à une poupée. Enfin voilà, on peut être dans un truc d'imitation, rendre ça un petit peu plus ludique, et c'est dans le contexte quand même plus contenant et plus chaleureux de la maison. Et il y a pas mal d'adultes qui font l'autotest en même temps que leur enfant. tu fais le tien d'abord, je le fais
donc
moi.
Donc l'autotest, voilà, c'est une solution intéressante pour éviter le stress à ces jeunes enfants. Merci Aurélie Calais, et puis merci parce que comme vous dites, vous êtes optimiste. Et,
on en a besoin.
Exactement, et vous êtes rassurante pour l'équilibre psychologique, psychique de ces jeunes enfants. 12h50, 1,10€, c'est le prix de la baguette tradition, je crois, à peu près. Leclerc la propose à 29 centimes
pas
d'euros.
Pas la même baguette, attention. C'est la baguette normale.
La baguette normale.
Oui, oui, non, mais faisons la différence quand même.
Je suis d'accord. 29 centimes d'euros, donc les boulangers, évidemment, sont en colère. On en parle dans une seconde.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Quand il vend 29 centimes, il vend la baguette à perte. Le prix du blé a augmenté de 25% en un an. C'est une réalité, la cotation est publiée. Lui, il l'ignore et il dit « je divise le prix de la baguette par deux ». Il devait gagner beaucoup d'argent quand il la vendait au prix d'avant, 60 centimes ou 70. Imaginez sa marge. Là, il s'est révélé comme un grand qui se fait un pognon de dingue sur la baguette.
C'était ce matin sur RTL. Christiane Lambert, la patronne de la FNSEA, le syndicat d'agriculteurs, très très remontée contre le groupe Leclerc, qui annonce donc une baguette à 29 centimes d'euros. Alors a-t-elle raison de s'insurger? Le distributeur va-t-il vraiment trop loin? C'est le deuxième débat de RTL Midi. Avec nous, Martial You, chef du service économie de RTL, et Michel-Édouard Leclerc. Bonjour, merci
Bonjour.
Beaucoup de réagir en direct sur RTL. Réponse d'abord, j'imagine, au propos de Christian Lambert, ça vous a fait bondir ça?
Non, j'ai surtout pas compris. D'abord, pendant cette période de Covid, elle avait pris l'habitude de prendre son téléphone et soit de demander un coup de main, soit de critiquer éventuellement. Mais là, j'ai découvert cette polémique. Elle n'a pas lieu d'être. C'est très bizarre.
Est-ce que vous vendez à perte, Michel-Édouard Leclerc?
Non, je réponds non à votre question, mais nous n'avons pas baissé les prix. Nous avons annoncé bloquer les prix pendant 4 mois de la baguette premier prix qui est déjà vendue à ce prix-là. C'est le prix moyen dans les centres Leclerc depuis 2 ans.
C'est-à-dire que la baguette à 29 centimes, elle était déjà dans les rayons à 29 centimes?
Elle est vendue entre 25 et 32 centimes dans les centres Leclerc. C'est des indépendants. Nos magasins sont des indépendants. Ils calculent leur prix par chaque magasin. Mais là, pour en faire une publicité, on a fait un prix moyen. Vous voyez, c'est 29. Et 29, c'était déjà le prix moyen vendu de cette.
Mais pourquoi on en parle alors? Pourquoi on en parle aujourd'hui si c'est en place depuis 2 ans?
Et non seulement c'est en place, mais vous avez des. Vous savez que je parle pas la langue de bois, donc il y a des magasins Aldi, des magasins Lidl qui le font aussi, et Intermarché l'année dernière a fait une grande publicité à 0,29. On n'a pas entendu la présidente de la FNSEA monter sur ses grands chevaux.
Michel-Édouard Leclerc, la différence, c'est qu'entre-temps, il s'est passé une année où le prix du blé a augmenté de 25 à 30% et que vous avez toute une filière qui, en ce moment, essaie de faire passer auprès des distributeurs comme vous l'idée qu'il va falloir augmenter les prix, précisément, parce que pour répercuter cette hausse qui est très lourde pour tout ce qui est la filière meunier, agriculteur, évidemment, et boulanger par ailleurs.
Alors, là où ils sont, où il y a de l'hypocrisie et de la manipulation, c'est que d'abord ces hausses, nous les avons acceptées, elles sont dans notre prix. Nous avons eu 2 fois des hausses tarifaires de la part des meuniers français, et nous les avons acceptées. Donc on en tient compte dans ce prix de 29 centimes. Et même à ce prix-là, même si nous avons renié sur nos marges ou si nous avons des marges basses, nous avons encore la capacité. Mais ça, je ne veux pas le dire trop fort, d'accepter encore.
Mais c'est quoi votre marge sur ça?
Si le marché venait à flamber, on
vous
est
gagnez de l'argent sur une baguette à 29 centimes
d'euros. Une baguette à 29 centimes, votre marge, elle est de combien?
Nous gagnons de l'argent.
Combien? 1 centime? 2 centimes?
Le coût matière, c'est 14 euros. C'est 14 centimes
14
d'euros,
centimes.
Pardon. C'est 0,14. Hein. Donc quand on le vend à 0,29, oui, ça. On a 2000, nous avons 2000 boulangers, pâtissiers dans les centres Leclerc qui sont payés. Nous vendons des millions de ces baguettes. C'est pas la baguette qui se vend le plus. Celle qui se vend le plus, c'est plutôt la tradition.
Elle est à combien la tradition?
0,75, quelque chose comme
Alors qu'elle est à 1,05, 1,10 généralement dans une boulangerie traditionnelle.
Voilà, et donc vous voyez, dans l'idée là, c'est qu'au moment où l'inflation s'installe dans tous les rayons, parce que nous avons accepté la loi Egalim que revendique Madame Lambert, nous savons que tout notre fonds de rayon va bouger, hein, du fait de l'augmentation des matières premières, aussi l'engagement de soutenir le revenu agricole. Donc tous les prix vont augmenter. Or, le sujet des prix alimentaires est déjà très stressant pour les consommateurs qui sont les moins aisés. Et donc nous créons des marqueurs de confiance pour les consommateurs.
Vous refaites le coût de la station-service, en fait.
Exactement.
Produit d'appel, c'est ça, hein.
Exactement. Enfin, le prédit d'appel, les carburants, nous sommes le deuxième distributeur français. Hein, donc ça, c'est un manque à gagner quand on est à prix coûtant. Mais quand sur la baguette, même sur les masques, on a fait baisser le prix des masques au début de la crise, mais aujourd'hui, on est à prix coûtant aussi. C'est un marqueur pour les gens. Parce que, en fait, à partir du moment où le consommateur qui compte son budget euro par euro, mémorise certains produits, il faut être carré avec les consommateurs. Le prix de la baguette blanche premier prix est un marqueur de leur pouvoir d'achat et de l'inflation.
Michel-Edouard Leclerc, pardon, je voulais vous faire donc c'est un sujet qui est éminemment bien sûr politique, cette question du pouvoir d'achat en pleine campagne. Valérie Pécresse, figurez-vous, a réagi à cette polémique autour de la baguette Leclerc. Elle est dans le Doubs actuellement. Je vous lis ce qu'elle a dit et vous réagissez. C'est extrêmement dangereux, dit Valérie Pécresse. Leclerc va se rattraper sur le reste du caddie. Ce n'est pas une mesure de pouvoir d'achat, c'est un produit d'appel pour faire venir des clients dans le magasin. Ça veut bien dire qu'il y a une destruction de la valeur quelque part, soit celle de la farine, soit celle des employés. On ne peut pas, dit la candidate Les Républicains, vendre à des prix qui ne sont pas les prix justes. Qu'est-ce que vous lui répondez, Michel-Edouard Leclerc ?
Eh bien, le Parti Républicain, comme le Parti Socialiste, comme une grande partie des parlementaires, l'année dernière, dans une première loi agricole, nous a obligés d'augmenter nos prix de 10%. Ça s'appelle la loi Egalim, c'est l'augmentation du seuil de vente à perte. Donc, ils ne se sont pas posé la question de savoir comment on allait compenser cette ponction sur les consommateurs. C'est évident qu'on rebaisse d'autres articles. C'est évident, c'est le rôle d'un commerçant, c'est notre boulot. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que nos élus, et aussi les gens qui représentent des syndicats professionnels, ils redescendent dans les magasins, qu'ils regardent les consommateurs. Si on vend des millions de baguettes à 29 centimes d'euros, des millions, c'est d'abord parce qu'elles ne doivent pas être si mauvaises que ça, et donc on a des bons boulangers. Et la deuxième chose, c'est personne n'est obligé de les acheter, vous comprenez, il y a des bonnes boulangeries en France, dans nos magasins il y a d'autres types de pain. Si les consommateurs achètent ce pain, c'est que c'est important pour eux, et donc je trouve que tous ces gens qui donnent des leçons,
les boulangers ne sont pas contents non plus, parce qu'ils vous accusent de
concurrence déloyale,
voilà, de concurrence, que vous avez les moyens que eux n'ont pas, et au fond c'est toujours la même accusation qu'on vous fait, c'est de tuer le petit commerce, je le dis aussi vite que ça, mais bon, ça fait 50 ans que j'entends ça avec les grandes surfaces.
Ben ouais, ben moi ça fait un peu plus de 50 ans puisque les centres Leclerc, oui. J'ai fait ma vie dedans.
Mais c'est une vérité parfois dans les villes moyennes. Dans les villes moyennes, il n'y a plus que des grandes surfaces. Il n'y a plus de petits commerces. Houellebecq en parle assez bien d'ailleurs dans ses romans.
Oui, et d'ailleurs il aime bien les centres Leclerc. Il les fréquente.
Oui, je suis d'accord avec vous, mais bon, les petits commerces aiment moins.
Mais on en était du petit commerce. Si on avait, en fait, nous sommes des petits commerçants qui nous sommes organisés pour challenger les hypermarchés, et on est devenus, en nous organisant, en coopérative, on a appris à acheter, on a appris à faire de la publicité en commun, et voilà, donc faut pas reprocher, en France, on reproche toujours à celui qui a réussi d'empêcher l'autre d'arriver. Mais bon, on n'est pas solidaire, on est en kill, bon ben voilà.
Merci, moi je retiens quand même une chose, c'est que votre baguette existait déjà dans les supermarchés depuis de nombreux mois, et qu'on en parle aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que c'est arrivé au devant de l'actualité? C'est assez étrange, puisque c'est cette baguette et ça,
parce qu'il y a eu cette pub. Vous avez fait une pub, Michel-Edouard Leclerc, pour dire que vous bloquiez.
Puis la question du pouvoir d'achat est
très majeur.
Non, mais c'est ça que je retiens forcément de cette polémique. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, Monsieur Leclerc.
Merci. Au revoir.
Et merci à vous. Il est donc 13h01. La pause, à tout de suite. RTL Midi.